je demandais au Seigneur quel est le message à partager avec l'Église. Et il y a un texte qui me semblait coller un peu à l'histoire qu'on va tout à l'heure entendre de notre sœur Waïba. Mais là, dans le cas de l'histoire, c'est un homme. Donc je vous invite à faire la lecture du livre des Actes au chapitre 8 à partir du verset 27. Dieu parle aux femmes, Dieu parle aux hommes. Les chemins, ils sont souvent très proches, même si chacun d'entre nous avons fait des expériences et des parcours différents. Mais il y a toujours quelque chose qui nous ramène à ce besoin, cette recherche de la source du salut qui est Jésus-Christ. Le texte dit, Actes chapitre 8, versets 27 à 35, et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Ils sont retournés assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment je pourrais comprendre si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrit la bouche et commença par ce texte. Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Cet homme était à la recherche de la vérité. Il était sur son chemin, il avait fait de la route depuis l'Éthiopie pour aller à Jérusalem. Son but était d'adorer Dieu. Et combien d'hommes et de femmes encore aujourd'hui sont sur la route et cherchent, ce désir est profond dans leur cœur d'adorer Dieu, le seul et vrai Dieu. Et dans cette recherche, cet Éthiopien, il s'était même pourvu d'une partie de ces textes si incroyables et merveilleux, le livre d'Ésaïe. Vous savez, aujourd'hui, on a la facilité à se procurer une Bible. Que ce soit en papier, que ce soit sur le téléphone, tout le monde peut avoir une Bible sans forcément dépenser. Mais là, avoir en rouleau du livre du prophète Ésaïe, c'était quelque chose. C'est écrit par des personnes qui devaient faire tout un rituel dans l'écriture. Il ne devait pas y avoir d'erreur. Ils devaient se changer toutes les fois qu'ils inscrivaient le nom de Dieu. Il fallait changer la plume qui écrivait. C'était quelque chose. Et là, cet homme, il repart avec un trésor dans ses mains. Et on peut avoir la Bible. Et c'est un trésor. Mais parfois, on peut être confronté à cette difficulté à comprendre ce que la Bible, elle veut nous dire. On peut être bloqué, limité, comme si un voile se place devant nos yeux, parce qu'on lit la Bible avec nos propres lunettes. Et là, cet homme, il essaie de comprendre, mais Dieu, dans sa bonté, en connaissant le cœur de cet homme, puisque Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous, il a déplacé un serviteur pour aller lui expliquer, lui exprimer la bonne nouvelle. Amen. Et je crois que ce matin, nous avons nous aussi l'occasion de partager la bonne nouvelle de Jésus. Cet homme, il est là, il cherche, il lit, mais il ne comprend pas. Et on voit Philippe arriver près du char, il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment je peux comprendre si personne ne m'explique? Vous imaginez la frustration de cet homme de dire, j'ai quelque chose là, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est un peu comme les manuels d'instruction, vous savez, quand vous achetez un électroménager. Combien d'entre vous lisent les instructions? Levez la main. 2, 3, 4, 5, 6. Ouf, on travers. On regarde surtout les images, n'est-ce pas? Et là, cet homme, il s'arrête pas à regarder les images. Il veut comprendre, il lit. Mais malheureusement, ce n'est pas facile. Pourtant, c'est un homme de culture, c'est un homme qui a une place de responsabilité. Donc, ce n'est pas une question de connaissance intellectuelle. Et personne dit que la personne qui est intellectuelle ne peut pas lire la Bible, loin de là. Mais on a besoin de quelque chose de plus. C'est pour ça que Jésus dira, Père, je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages et tu les as rendues faciles à comprendre à ceux qui s'approchent de toi avec simplicité. Et alors, cet homme, il dit, mais comment je peux faire à comprendre si personne ne m'explique? Peut-être quelqu'un aurait pu se dire, ben oui, je comprends tout, t'inquiète pas. Hein? On a souvent ce type de dialogue avec des personnes, tu, oh oui, je sais, souvent, je sais. Mais est-ce qu'on a compris? Cet homme, il a l'humilité de dire, comment je peux comprendre si personne m'explique? Et là, Philippe, il dit, le texte commence à lui expliquer, à lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alors je me suis dit, Seigneur, quelle est cette bonne nouvelle? Alors je voudrais vous la partager de manière simple. Et la manière meilleure pour l'expliquer, c'est de faire parler la Bible. D'accord? Donc, soyez pas étonnés qu'on aura plusieurs références bibliques, mais qui peut mieux parler de la Bible, ce n'est pas la Bible elle-même. Dieu aime tout le monde et il veut avoir une relation avec chaque individu. Cet homme n'était pas juif, était éthiopien. Certains auraient pu dire, ce n'est pas ta place. Et pourtant, Dieu cherche tous les hommes et ça a été toujours le cas. 2 Pierre chapitre 3, verset 9, dit, 2 Pierre chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Là, le premier message, c'est de comprendre que l'amour de Dieu dépasse nos limites. Nous, 1 Jean chapitre 4, verset 19, dit, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. C'est plus compliqué d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, n'est-ce pas? Et Jésus a été confronté à la haine, à la colère des hommes, alors que lui, il les a aimés. Il aurait pu faire descendre les anges du ciel et raser l'humanité d'un coup. Mais par amour, il s'est gardé d'agir ainsi. Vous savez, il y a un moment où les disciples, ils sont un peu fâchés. Parce qu'ils voient qu'on ne reçoit pas Jésus, on ne les reçoit pas. Et on n'aime pas ne pas être reçu. Surtout si on est porteur de bonnes nouvelles. Et deux de ses disciples, dont un connu pour être le disciple de l'amour, Jean, ils disent, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel? Et Jésus leur dit, mais hors de question, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Quel amour, quelle patience! Le problème, c'est que l'homme est séparé éternellement de Dieu à cause du péché. Il y a quelque chose qui crée une séparation et malgré les efforts de l'être humain, il ne peut rien faire par lui-même pour rétablir cette relation avec Dieu. Proverbe chapitre 14, verset 12, dit, Proverbe 14, 12, telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. On le relit. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. On peut penser, on peut être intimement et fortement convaincu que le chemin qu'on a pris, il est bon, mais il n'y a que Dieu qui peut en réalité nous permettre de trouver le chemin du salut. Malgré tous nos efforts, malgré toutes nos bonnes œuvres, elles ne suffiront pas. Parce que si les bonnes œuvres et nos efforts personnels étaient suffisants, pourquoi Jésus avait besoin de mourir pour nous? Hier, je disais en formation baptême, je disais, malgré tous les efforts qu'on peut faire, la dette est tellement grande qu'on n'arrive même pas à régler les intérêts. Et chaque jour, ces intérêts augmentent à cause de nos péchés. Et on n'arrivera pas. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les dettes augmentent au point qu'on n'arrive pas à les régler? On appelle ça comment? Surendettement. On est obligé de faire un dossier, une demande, un secours pour que quelqu'un vienne mettre fin et raser cette dette. Et on redémarre à zéro. Eh bien, la volonté de Dieu, c'est en effet de venir nous enlever cette dette. Et pour cela, il ne fait pas de distinction de personne. Romains chapitre 3, verset 23, dit « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Quand il dit « tous », ça veut dire qui ? Il parle de qui, là ? Alors, c'est facile de dire de tous, mais je commence par moi. Parce que sans le secours de Dieu, Romains chapitre 3, verset 10, il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Oh là ! Et moi, je pensais d'être pas si mal que ça. Un jour, quelqu'un me disait en entretien, vous savez, pasteur, je suis quelqu'un vraiment de bien. Je lui ai dit, écoutez, si vous le dites, je n'ai jamais fait de mal à personne, j'ai jamais volé personne. J'ai jamais fait ceci, j'ai jamais fait cela. Et au bout d'un petit quart d'heure, où il m'a fait la liste de tout ce qu'il n'a pas fait, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait et que vous regrettez ? Ah oui, bien sûr. Eh bien, j'ai dit, alors les carottes sont cuites. Parce qu'à partir de là, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas pu, vous n'avez pas pu régler vous-même. Et aujourd'hui, vous avez besoin de secours. Parce que malgré tout ce que vous pouvez faire, vous vivez avec un regret que personne ne pourra effacer, sauf Jésus-Christ. Et pour cela, vous avez besoin de dire, Seigneur, viens à mon secours. Romains chapitre 6, verset 23, il nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Toujours hier, pendant ce temps de partage de la parole, un des deux personnes en formation me disait, mais c'est trop facile. On vient, on demande pardon, on est pardonné, c'est trop facile. Et j'ai dit, mais quand tu regardes les deux brigands à la croix, pourquoi faire les choses difficiles alors que le Seigneur a pris toutes ces difficultés pour nous rendre la tâche facile ? Souvent, le blocage, c'est nous-mêmes. Encore une fois, c'est intellectuel. On pense qu'on doit déplacer les montagnes pour que nous puissions mériter, voire peut-être même dire, j'ai le droit. Et Dieu nous montre que ce n'est pas ainsi, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, donc la grâce, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Bien que Dieu aime les hommes, Dieu demeure saint et juste, et il a condamné le pécheur à la mort. C'est normal. On ne peut pas d'un coup effacer les fautes de tout le monde sans que la personne ait demandé, n'est-ce pas ? Est-ce que ça serait normal que quelqu'un qui n'a pas fait le choix de changer sa vie puisse finalement avoir la même récompense que quelqu'un qui a fait tout ce qu'il fallait humainement, mais en tous les cas, surtout spirituellement, en s'approchant de Dieu ? Comment imaginer que des personnes qui ont fait des actes abominables puissent demain se retrouver libres sans assumer leurs responsabilités ? Alors, quels qu'ils soient les péchés des hommes, quels qu'ils soient les hommes ou les femmes qui s'approchent de Dieu, Dieu ne fait pas la liste des péchés, mais il efface la totalité si le cœur revient à lui, repentant véritablement. Ah, mais lui, il a une petite ardoise, moi j'en ai une plus grande, mais le Seigneur efface notre ardoise. Et c'est pour cette raison aussi que Dieu ne peut pas faire semblant de rien en disant « on ira tous au paradis ». Vous savez cette chanson qui est parfois chantée, mais qui malheureusement n'est qu'un mensonge, puisque l'homme, à cause du péché, il est séparé de Dieu éternellement. Ésaïe 64, nous revenons au fameux livre d'Ésaïe que l'Éthiopien essayait de comprendre. Ésaïe 64, versets 5 et 6. Il dit, « Nous sommes tous devenus comme un objet impur et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Car tu nous as caché ta face et tu nous as laissé tomber en défaillance à cause de nos fautes. Nos propres erreurs deviennent un voile, un empêchement, une muraille. Vous avez déjà essayé de sauter un mur? Quand le mur, il est petit, ça va, hein? Alors, bon, ça ne parle pas à tout le monde, ça ne parle qu'à moi, mais quand on arrive à un certain âge, on aime bien les petits murs. N'est-ce pas? Les grands murs, on dit ça, c'est pour les jeunes. Ils sont athlétiques, ils sont rapides, il y en a qui sautent comme des chats sur les murs. Mais nous, et c'est en réalité, c'est avec le temps, à cause de nos péchés, que le mur, il monte au point qu'il devient difficile à surmonter. Mais on pourrait se dire qu'on aurait pu le faire déjà au départ, mais vous savez, vous avez déjà vu un bébé passer au-dessus d'un mur par ses propres forces, non? Et en grandissant, mais vous avez déjà vu un bébé ne jamais, pas un bébé, mais un enfant à force de grandir, au moment où il arrive au moment de la connaissance du bien et du mal, pas avant parce qu'il n'en est pas conscient. Mais vous avez vu comment les enfants, on n'a pas besoin de leur apprendre à mentir. Hein? Vous avez fait l'expérience? On n'a pas besoin de leur apprendre à mentir. Ils trouvent la technique tout seuls. On n'a pas besoin de leur apprendre à cacher les choses, ils le font tout seuls. Moi, j'aime beaucoup observer les enfants, on apprend beaucoup. En regardant les enfants, on apprend beaucoup sur les adultes. Et on se replonge un peu en enfance, n'est-ce pas? Surtout quand on regarde nos propres enfants, qui font quelque chose que nous, on a déjà fait. Et en réalité, on devrait les gronder. Mais comment les gronder alors que nous, on a fait de même, voire même pire? Mais ça prouve que, à fur et à mesure que nous grandissons, ce mur s'élève et devient toujours, il a été toujours pour nous quelque chose d'insurmontable. Et on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin du secours de Dieu. On a besoin de cette aide parce que Dieu veut nous aider. Alors, Jean chapitre 3, versets 16 et 18, dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jésus ne vient pas nous faire la courte échelle. Il ne nous propose pas un raccourci pour nous sauver et nous sortir de la situation. Non, Jésus est venu abattre le mur. Il est venu terrasser le péché qui nous empêchait véritablement de nous approcher de Dieu. Et ça, par amour. Et le texte, il le dit, il est prêt à le faire, mais, c'est une question de foi, c'est une question de décision. Celui qui croit, dit la parole de Dieu, en Jésus-Christ sera sauvé. Celui qui ne croit pas, il se condamne déjà lui-même. C'est un choix qu'il fait de ne pas croire en celui et le seul, le Fils unique de Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, il dit, c'est par la grâce, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors vous imaginez cet homme qui était assis sur son char. Et d'un coup, il rencontre quelqu'un qu'il ne connaît pas, Philippe, et qui commence à lui parler de tout ça. Et cet homme, je pense que assis sur son char, ce siège devait devenir difficile. Vous savez, quand on est mal à l'aise, parce qu'en réalité, notre vie est mise devant toute chose. Mais il reconnaît que si cet homme est là pour lui enseigner, c'est que c'est un homme de Dieu, donc il n'est pas là pour le juger. Que Dieu nous garde de juger qui que ce soit. Philippe, il avait été lui-même avant à la même place de celui qui en réalité tout seul ne peut pas être sauvé. Et donc il partage cette parole, ce conseil de Dieu, cette nouvelle incroyable qui jusque-là, il montre qu'en réalité cet homme, malgré tous ses efforts et sa bonne volonté, parce que la bonne volonté on peut l'avoir, mais ne suffit pas. Cet homme, il est obligé, il reconnaît de dire « je suis perdu ». C'est horrible, après tant d'efforts, de dire « je suis perdu ». J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui étaient en fin de vie. Et quand je dis l'occasion, c'est parce qu'en même temps, ce n'est pas évident. Il y a ce moment particulier où, en effet, la personne, elle sait qu'elle va devoir se retrouver devant Dieu. Et je me rappelle de cet homme qui avait fait la guerre à sa sœur parce que sa sœur, elle s'était convertie à Jésus-Christ. Et puisqu'elle avait abandonné la religion de famille, elle était devenue pour lui un ennemi. Pourtant, il reconnaissait bien que sa sœur, elle lui avait toujours fait preuve d'amour, de patience. Il n'avait pas été tendre, je vous assure. Et avant que cet homme meure, sa sœur lui a dit « Mais tu ne veux pas avoir un moment, une rencontre, tu veux rencontrer le pasteur ?» Et vraiment, cet homme était malade d'une manière incroyable et finalement, il a accepté. Il a accepté. Et j'ai pu aller lui rendre visite, mais c'était la préparation d'une semaine. Je devais le voir le vendredi. Le vendredi a été hospitalisé. Je voulais aller le voir le samedi. Impossible parce que dans sa colère et dans sa haine, il avait entraîné toute sa famille. Et son épouse, elle ne voulait vraiment pas que sa sœur vienne le voir. Et alors, mais lui, il avait donné son accord. Parce qu'il n'est pas question de s'immiscer dans la vie de qui que ce soit. Cet homme, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et finalement, je voulais aller le voir samedi, impossible. Le dimanche, je voulais aller le voir. Et à chaque fois, il y avait un empêchement, vous savez, un problème après l'autre. Et lundi matin, j'étais prêt à y aller, mais je sens dans mon corps, il y a un blocage. À midi, finalement, on était à table. « Seigneur, mets sur mon cœur maintenant. » Je pose la fourchette, le couteau, et je pars à l'hôpital. Et j'arrive et je trouve cet homme assis sur son lit. Difficulté à respirer. On ne s'était jamais rencontrés. Et j'ai été étonné par retrouver cet homme comme ça. Je me suis dit dans mon cœur, c'est un peu comme l'eunuque, assis. Sur le chemin, et il avance. Et vous savez, plus on avance, plus notre vie se raccourcit, hein, au passage. Considérons bien les choses. Amen. On est plus proche de la fin que du départ, n'est-ce pas? Et alors, je dis à cet homme, je dis, écoutez, voilà, vous savez qui je suis, je devais venir vous voir, ça a été difficile et tout, et dans mon cœur, cette parole, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le temps de faire la paix avec Dieu? Et finalement, cet homme, il commence à pleurer. Cette carapace qui s'était faite pendant toutes ces années était brisée par l'amour de Christ. Je dis, Jésus vous aime. Il dit, c'est pas possible. Jésus vous aime. J'ai fait trop de mal à ma sœur. Jésus vous aime. Votre sœur, elle vous aime et vous le savez, oui. Et Dieu vous aime encore plus. Et finalement, cet homme a donné son cœur au Seigneur. Alors, je sors de l'hôpital et j'appelle cette sœur. Je lui dis, écoute, j'ai pu voir ton frère. Il t'a fait comment? Je lui dis, ben, je suis allé à l'hôpital. Il dit, mais depuis samedi, il était impossible, il ne pouvait plus parler. Je lui dis, mais avec moi, il a parlé. Ah bon? Je lui dis, oui, il a donné son cœur à Jésus. Alors, chose incroyable, ce moment avec lui a duré 10 minutes, un quart d'heure, vraiment une fenêtre de tir, vous savez, un moment, un instant. Et cet homme a donné son cœur au Seigneur. Et depuis l'après-midi, il a pu reparler encore une fois. Plus jamais, pas un mot. Et le lendemain matin, il est décédé. Seulement Dieu sait où on en est sur le chemin de notre vie. Quelqu'un aurait pu se dire, un homme qui a fait tant de mauvaises choses, tant de haine, tant de colère. Il ne mérite pas le salut. Et pourtant, Dieu avait un projet de salut aussi pour cet homme. Qu'on soit, excusez-moi, le meilleur au monde ou le pire au monde, on a tous besoin de Jésus. Et Dieu soit béni parce que pas seulement il nous aime, il nous le prouve. Et par le sacrifice de Christ, il nous montre le chemin du salut. Alors, comment? Je reviens à la question de hier, c'est trop facile. Alors si c'est facile, fais-le. Qu'est-ce qui t'empêche de croire, de mettre ta foi en Christ, puisque celui qui croit en Christ reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Et il est réconcilié avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui donne l'assurance de cette réconciliation? C'est la paix qui se retrouve dans le cœur, parce que le Saint-Esprit vient dire à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 10, versets 9 à 11 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce qu'il dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Et c'est ce que notre sœur va faire tout à l'heure. Elle a cru avec son cœur, elle va confesser aussi avec sa bouche. Elle va exprimer son désir de suivre le Seigneur. Quand quelqu'un reçoit Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Amen. Il n'est plus question d'avoir un cœur vide, mais il est question de faire et de transformer notre vie au point d'être une nouvelle créature, étant donné que Christ lui-même vit en nous. Et il veut vivre une vie glorieuse et victorieuse. Celui qui croit peut vivre une vie glorieuse et victorieuse en Dieu. Je termine avec cette dernière référence. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La parole de Dieu nous dit que, après avoir entendu cette parole, cet homme, alors que son char avançait, est arrivé à un point où il y avait de l'eau. Ils étaient quand même dans le désert. Quand Dieu vient à notre rencontre, il prévoit tout, même l'imprévisible, n'est-ce pas? Et cet homme, il dit, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Faites la lecture du texte du livre des Actes et vous verrez. Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et dit le texte, « Il ordonna d'arrêter le char et tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'Eunuque, et il le baptisa. » Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, comment savoir? Comment savoir? Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne vit plus alors que, joyeux, il poursuivait son chemin. Il y a cette joie que seulement Dieu peut instaurer dans notre cœur, que seulement Dieu peut donner parce que c'est la joie du pardon et c'est personnel. Personne ne peut le faire à votre place. On va fermer nos yeux, incliner nos têtes. Et encore ce matin, peut-être qu'il y en a ce matin dans ce lieu qui ont besoin de faire la paix avec Dieu, qui ont besoin de trouver cette réconciliation avec Dieu. Alors oui, certes, vous avez fait tous vos efforts, mais ces efforts ont besoin de celui qui véritablement peut sceller ce pardon par le sacrifice qu'il a accompli à la croix. Alors si quelqu'un ce matin souhaitait faire la paix avec Dieu, je vous invite à prier avec moi. Père céleste et Dieu de grâce, je viens à toi, toi qui es le Dieu de miséricorde, toi qui es celui qui accorde le salut en Jésus-Christ. Je reconnais mes péchés, je reconnais mes fautes et j'ai besoin d'être pardonné, lavé et purifié par le sang de Jésus-Christ. Je te donne ma vie et je désire que Jésus soit mon Seigneur et mon Sauveur. je me donne à toi. Seigneur, je te laisse le gouvernail de ma vie et je veux te suivre, tel un disciple qui suit son maître. Fais de moi, Seigneur, ton serviteur, ta servante. Fais de moi ton enfant. Père, je te prie au nom précieux de Jésus-Christ, par qui nous pouvons avoir grâce et par lequel nous te disons à toi toute la gloire. Amen.